Comment fait-on pour mélanger l'art et le numérique ?
Bon, alors on a une façon de travailler qui maintenant s'est affinée depuis le fil du temps. Hein. Jean-Robert développera, mais c'est lui qui conçoit quand même toute la partie, non seulement des logiciels, mais toute l'électronique, les machineries, parce qu'il y a aussi de l'inventivité dans la façon de faire fonctionner ne serait-ce que des objets courants comme une machine à coudre ou un moulin à café. Il faut l'adapter, il faut faire en sorte qu'on obtienne ce qu'on veut avec ça. Donc, toute la partie ingénierie, je dirais que Jean-Robert la développe de façon personnelle. Donc, ce sont des logiciels qui sont en unique exemplaire développés par lui. Donc, ce ne sont pas du tout des logiciels libres. Hein. En général, soit l'un, soit l'autre a une idée qu'on développe ensemble, qu'on affine, qu'on essaye de rendre réaliste, parce que quelquefois les idées ne sont pas réalistes et pas réalisables. Donc Jean-Robert s'occupe plutôt de la partie technologique et moi je m'occupe plutôt de la partie de composition sonore. Voilà.
Oui, tu as composé presque toutes les musiques de toutes les installations. Et ce goût pour le son, tu l'as depuis fort longtemps.
Comme toi, voilà. Tu as ce goût de bricoler
depuis que je suis tout petit. Voilà. Voilà, ça c'est vrai. Donc on se complète là-dessus, sur nos spécificités au niveau des connaissances pratiques. Mais ce qui fait la liaison, c'est notre discussion. Oui. On discute, on se dit ça c'est bien, ça c'est moche, ça c'est pas terrible, ça c'est...
Comment on pourrait arriver à faire ça?
Ça, on pourrait l'améliorer. Oui. Donc la discussion... Le dialogue fait qu'on trouve un compromis. Oui. Donc, ce n'est pas une décision, disons, égocentrique de l'artiste qui dit « je veux ça ». Non, on discute et donc c'est vraiment un travail de duo.
La poésie numérique, comme ça, au premier abord, on pourrait se dire que c'est assez
antinomique. C'est antinomique, ça paraît être paradoxal. Et être
de moins en moins, en fait, hein, ouais. Puisque maintenant, il y a de... Quand on a démarré, nous, il n'y avait pas beaucoup d'artistes d'art numérique ou multimédia, comme on dit maintenant. Maintenant, ça se développe de plus en plus. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur le son, l'image.
Sur l'interaction. Mais je pense qu'ils ont été influencés de quelque part par nos travaux.
Mais pas forcément que par nous, mais oui, c'est dans l'air du temps aussi. Parce qu'au théâtre aussi, il y a eu des tentatives. Maintenant, la plupart... Oui. Des nouvelles scénographies incluent la vidéo, etc. C'est dans
oui,
l'air du temps.
Avec les micro-caméras. C'est voilà. Vrai qu'il y a des phases, presque des modes dans l'art.
Pourquoi et comment on implique le public dans une œuvre ?
Alors, en fait, ce qui était très important pour nous aussi, c'était donc d'une part d'avoir une connexion réelle avec le public et aussi une connexion conviviale et ludique. On voulait absolument qu'il n'y ait pas de problème ni de langue, ni de compréhension, ni d'approche culturelle spécifique, etc. Donc, en fait, on a cherché des moyens de pouvoir communiquer avec le public à travers la découverte, parce que c'est quand même des installations qui, à chaque fois, sont relativement surprenantes, quand même. Et à travers la découverte, à travers le jeu et le plaisir de participer et de partager ensemble une expérience. Voilà. Et je crois que là-dessus, on y est pas mal arrivé.
Oui. En tout cas, on a bien persévéré pendant toutes ces années et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Parce que c'est vrai qu'un moteur humain très important, c'est qu'on oublie parfois, c'est le jeu. Le jeu, pas le jeu d'argent, le casino. Hein, le jeu en tant qu'esprit de découverte, c'est-à-dire cet intérêt qu'on a de façon quasi instinctive, naturelle, pour découvrir quelque chose de mystérieux et de faire l'essai, de faire une tentative. Et cet intérêt-là, il est commun à tout le monde et il dépasse les barrières culturelles. Qui sont acquises au fil du temps et qui font qu'on aime tel ou tel type de musique ou tel type de littérature. Voilà. Donc c'était une approche très, très ambitieuse, mais nous étions jeunes à l'époque, et aussi très ouverte. C'est une façon d'envisager la pédagogie qui est très très bonne, hein, qui est utilisée de toute façon.
Mmh.
l'implication du public, ça c'est un moteur essentiel de notre travail. Il est important à deux titres. D'une part, on veut lui garder sa plus grande autonomie et sa liberté d'expérience, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, mais si ça ne nous plaît pas, on peut sortir, et personne ne viendra vous dire que ce n'est pas bien de sortir pendant le spectacle. Et aussi, on peut rester plus longtemps ou sur une durée qui convient à la personne. Et deuxième élément, le public ne peut pas acheter l'œuvre, donc ne peut pas la capturer pour lui seul, puisque nous échappons au marché de l'art complètement et nous vivons grâce à la générosité collective du monde politique qui accueille nos œuvres, c'est-à-dire avec l'argent de tous. Mais par contre, on ne peut pas acheter une de nos œuvres et la mettre chez soi uniquement pour son plaisir, disons, personnel ou égoïste.
Oui, ou pour son plaisir tout court, mais oui, bon, oui, c'est un choix qu'on a fait. Donc,
voilà, donc ça, c'est, voilà, ces deux côtés de l'aspect public, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas l'approprier et qu'on peut en profiter dans des espaces communs, c'est aussi, disons, un point de vue politique.
Mais sans obligation, ça c'est très important, c'est-à-dire que le public, la personne qui entre dans la salle d'expo ou dans l'ère de jeu numérique, est absolument libre de faire ce qu'elle veut. Elle peut très bien regarder les autres.
Oui, sauf casser. Hein.
Voilà, évidemment, ça c'est évident. Mais pour moi, ce n'est pas participer, ça.
Oui,
donc, oui. Donc, son expérience lui est propre. Ce n'est pas nous qui allons lui indiquer ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a des petits panneaux qui donnent le mode d'emploi de chaque installation. Comme ça, les gens sont au courant de comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Et après, c'est leur champ d'action à eux. On transmet, en fait. C'est plus de notre domaine.
Oui, on essaye aussi, pour le public, d'être précis sur les moyens que nous utilisons pour ne pas mystifier le public avec une technologie qui serait obscure. Mmh. On essaye de dire quels sont les outils que nous utilisons. En général, ils sont visibles. Et on ne cherche pas à créer un mystère là où ce n'est pas nécessaire. Donc on veut aussi laisser les clés de compréhension au public. C'est pour ça que, par exemple, on participe très souvent à des fêtes de la science pour expliquer le pourquoi et le comment de nos machines et de nos installations.
Parce qu'il y a une explication à tout. Ça fait partie, on en parlait au début, de la pédagogie.
Même si c'est apparemment merveilleux ou magique.
Avez-vous des influences, et si oui, lesquelles ?
Ah oui,
des influences, on en a eu plein.
Des influences, plein. Alors, pour ce qui est des arts plastiques, pour moi, une grosse influence, c'est Jean Tinguely. Si ça vous dit quelque chose, Jean Tinguely...
Qui faisait d'ailleurs un duo avec Niki de Saint-Phalle.
Avec Niki de Saint-Phalle, qui est connue pour ses nanas. Ses grosses femmes.
Une sculptrice extraordinaire.
Oui.
Bon, ils sont morts tous les deux.
Sont morts tous les deux. Mais donc, Jean Tinguely fabriquait des sculptures animées, presque des marionnettes aussi, qui étaient mobiles avec des moteurs, avec des poulies, avec des choses qui faisaient du bruit. Et donc voilà, ça c'est une influence importante. Et un autre artiste très important pour moi, c'est Nicolas Schoeffer, qui est lui l'inventeur de la cybernétique. Il parlait à l'époque du cerveau artificiel, c'est-à-dire le début des automatismes, et qui avait conçu des sculptures très carrées, très cubiques, mais qui animaient les lumières avec des reflets, avec des bruits, comme par exemple la tour cybernétique qu'il avait projetée pour Paris, finalement, je crois que ça a été, ou pour Bruxelles. Après, au niveau de la musique, la parole.
Au niveau de la musique, il y a beaucoup d'influences aussi, notamment ce qu'on a appelé les minimalistes américains, c'est-à-dire Phil Glass,
Steve Reich,
un petit peu avant Terry Riley, c'était des gens, bon, c'est pas de votre génération, mais c'est des gens qui ont apporté vraiment une autre façon d'aborder la musique et avec une certaine binarité, si on peut dire comme ça. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut employer.
Oui, parce que ça existe, la musique binaire, hein, oui. Avec des rythmes extrêmement simples.
Mais en fait, ce qui était très intéressant dans cette musique, c'est en fait que c'est sur un temps continu également. Il compose soit avec des instruments, donc c'est instrumental, soit aussi vocal, soit avec des synthétiseurs. Et en fait, la musique se compose, se décompose, se développe dans le temps avec une économie de moyens, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression, si on écoute de loin, que c'est une nappe sonore qui est quasiment identique à elle-même. Et en fait, non, elle est très riche. Elle se développe, elle se compose, elle se décompose. Des harmoniques arrivent, etc. etc.
Mais cette musique-là existe toujours maintenant.
Oui, oui.
Puisque dans la musique techno, c'est aussi la suite de cette musique. Parce
oui,
que
absolument.
L'utilisation des boucles,
oui.
Donc des répétitions, qui a été instauré par la musique minimale, reste, puisque c'est un système extrêmement efficace, très très puissant pour le cerveau et pour la danse.
Et puis il y a eu toute la musique électroacoustique, et ça c'est très important aussi, parce que ce sont des musiciens qui ont introduit dans leur musique des sons concrets, des sons de la nature, des sons travaillés. Et donc, en ce qui concerne l'art numérique, c'est vraiment une influence qui est primordiale.
Oui.
Primordiale, parce que tout le travail qu'on fait de construction sonore et même des images, puisqu'on travaille aussi les images, c'est ça, c'est ce travail-là. C'est vraiment presque un matériau, en fait. On travaille le son comme un matériau. Et l'image également.
J'ai vu que vous avez exposé pendant un temps à la Cité des Sciences à Paris, il me semble.
Oui, il y a très longtemps, oui.
Avec une machine à poèmes, à fabriquer des poèmes.
Oui.
Le poème pianoté, parce que on le pianotait sur un clavier, mais aussi il était inspiré du nombre pi. Et on pouvait créer un poème à partir des décimales infinies du nombre pi, 3, 14, 16, etc., avec le nombre de lettres correspondant aux décimales de pi. Le poème pianoté, la Cité des Sciences, c'est resté plusieurs années.
Oui.
Et on a une collection de poèmes assez bizarres, tous construits sur le nombre pi.
Ça me rappelle un peu un autre bouquin, je ne sais plus quel auteur qui avait fait un livre découpé où on pouvait changer...
C'est les 100 000 milliards.
Raymond Queneau.
C'est très bien de rebondir. Je vais rebondir là-dessus parce que justement, nous avons aussi d'autres petites machines qui sont des moulins à café. Et en fait, ce sont des moulins avec des manivelles, puisqu'ils sont anciens, manuels. Quand les gens tournent la manivelle, ils vont entendre des poèmes. Et notamment... il y a plein de moulins à café différents qui disent des choses différentes, et il y en a un notamment où on a repris non pas les poèmes du livre de Raymond Queneau, parce qu'il y a des droits dessus, mais on s'est inspiré de Raymond Queneau et on a créé nous-mêmes
les sonnets
qui permettent de faire une infinie variété de poèmes.
Voilà. Qui sont dits vocalement et qui change en fonction de la vitesse de la manivelle. Ce qui fait que parfois c'est très très grave, et parfois ça va très très vite, parce qu'on tourne la manivelle plus vite.
Vous avez parlé d'engagement politique précédemment, est-ce que l'écologie en fait partie ?
Particulièrement pour ce que nous présentons ici à MEMAC, les machines antiques et chromatiques, c'est un dispositif qui mobilise l'énergie humaine, les jambes des spectateurs qui vont pédaler, c'est la source d'énergie qui va créer des images lumineuses sur les disques en plexiglas qui sont mis en rotation sur chacune des machines. Et donc cette absence de connexion au réseau électrique, aux éoliennes ou aux centrales électriques, eh bien ça nous a semblé intéressant de pouvoir faire de l'art technologique sans être complètement lié au réseau électrique. Donc ça, c'est un point de vue qu'on essaye de développer.
Oui, et ce qui nous a aussi semblé très intéressant et qu'on essaye de faire depuis deux ou trois ans maintenant dans le prolongement de notre travail, c'est d'utiliser des objets qui ont appartenu à un quotidien qui peut être révolu, comme maintenant les machines qui sont des vieilles machines à coudre, qui ont toutes plus d'un siècle, et qui ont appartenu donc à des coutumes, à des modes de vie et à des cultures. Je crois qu'il y a plus grand monde qui doit faire de la couture avec ce genre de machine maintenant. Mais au lieu de les mettre aux puces ou dans un coin du grenier, eh bien, quelque part, ça fait plaisir de voir qu'on peut en faire un objet d'art numérique, en plus de ça, c'est-à-dire vraiment la pointe de l'art actuel avec toute la modernité qu'on peut lui apporter, et sans un câble électrique. C'est-à-dire que franchement, là, il y a je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le recyclage des vieux objets et dans le fait qu'on utilise l'énergie humaine et pas l'énergie nucléaire.
C'est assez ironique, oui.
Voilà.
Oui, mais bon, il ne faut pas non plus s'illusionner. Hein. C'est aussi un paradoxe parce que on utilise du plexiglas, utilise des matériaux qui nécessitent beaucoup d'énergie, donc il ne faut pas dire qu'on est 100% écologique,
ce serait faux.
Ce serait un leurre.
Non, mais c'est juste.
Mais on essaye, voilà.
Mais même pour que les gens aient un éclair de conscience, c'est-à-dire de temps en temps qu'ils disent ah oui, ben, on peut faire ça, après tout, l'électricité n'est pas forcément utile à 100% pour tout, voilà.
Et puis le passage du temps, je partage totalement ton avis sur le fait d'utiliser des objets qui ont plus de 100 ans avec des diodes LED qui produisent de la lumière du 21e siècle. C'est aussi un lien avec l'histoire humaine qui est très intéressant.
Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à décrypter derrière machine antique et chromatique ?
Non, il n'y a rien de compliqué chez nous.
Il n'y a rien de crypté non plus. Parce que c'est vrai qu'en général, il faut trois médiateurs pour expliquer une œuvre d'art contemporain. Parce que sinon, le public pense qu'il va passer à côté.
Oui, je vais même être pire que ça. Je veux dire qu'on a horreur de ça. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas mystifier les choses et dire que l'art, c'est fait pour une élite, qu'il n'y a qu'une élite qui peut la comprendre, etc. Non, chacun l'aperçoit à sa mesure. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes échelles. On n'est pas forcément obligé de tous concevoir ou comprendre les choses de la même façon. Donc, nous, on propose un objet visuel qui va permettre une expérience et après, les gens se l'approprient ou pas. Mais on donne les techniques, c'est-à-dire on dit comment ça s'est fait, etc. Mais surtout, on ne veut absolument pas faire croire que c'est insurmontable, compliqué, qu'il faut des connaissances particulières ou un esprit particulièrement développé pour ça. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le jeu, parce que le jeu, tout le monde peut...
Le jeu non compétitif.
Oui.
Parce que quand il y a concurrence... Il y a agressivité. Et on veut absolument éviter ce côté-là de la vie humaine. Éviter l'agressivité, parce que dans les lieux publics, ça conduit aux catastrophes. Donc, on essaye de favoriser l'esprit de la découverte, qui est un esprit très enfantin et qui est merveilleux. Et voilà, c'est ça. S'il y avait
ça
un
suffit.
Message caché, c'est suffisant.
Ça suffit.
Auriez-vous donc une vision de l'art plutôt sensorielle que conceptuelle ?
C'est très sensoriel, c'est très pragmatique aussi, paradoxalement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont... c'est très sensoriel, très pragmatique, mais c'est aussi important d'appréhender les choses pour voir la réalité du monde. Et l'art n'est pas dissocié du monde. Donc, ça peut aussi servir... à regarder le monde d'une certaine façon et peut-être même se dire que ça va ou ça va pas. Donc, il ne faut pas non plus penser que l'art est vain parce que je pense qu'il a son rôle, même un rôle social. Mais ça, c'est une autre question. Voilà.
Et pour compléter, je dirais, oui, c'est pragmatique, c'est une expérience sensorielle, mais ce n'est pas couper des concepts et de l'esprit de la logique, de l'analyse et de la confrontation des idées. Non, pas du tout. C'est un mélange de tous ces ingrédients.
Oui, c'est peut-être, enfin, c'est, l'art, ce serait plutôt un outil qui englobe...
Qui englobe presque tout.
Bah, oui.
D'accord.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut le voir dans une conception large des choses et pas...
Et du monde, voilà, c'est pas une vision étroite sur un seul petit sujet.
Oui.
J'espère.
Après, ça dépend peut-être des artistes, de
l'œuvre. Oui, c'est pour ça qu'il existe plein d'artistes et des visions très différentes.
Heureusement.
Oui, tout à fait.